Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Nathalie Barge pour vous présenter cette édition du 10 octobre 2018. 8 soldats et 48 djihadistes ont été tués lors d'affrontements près du lac Tchad, selon l'armée tchadienne. En RDC, nouvelle querelle autour de la machine à voter lors d'une réunion entre la CENI et les candidats à la présidentielle. Au Cameroun, le porte-parole du candidat Kamto a annoncé l'ouverture d'une enquête sur des faux observateurs électoraux. Un agent du renseignement chinois a été extradé de Belgique vers les États-Unis pour espionnage industriel. États-Unis, l'ouragan Michael atteint les côtes de Floride où l'état d'urgence a été déclaré. La Minute Écho, les sports, ce sera juste après le journal. Affrontement aujourd'hui entre l'armée tchadienne et les djihadistes dans la région du lac Tchad. 8 soldats et 48 djihadistes ont été tués. Eric Manirakidza nous en dit plus.
Les djihadistes de Boko Haram ont attaqué très tôt ce matin la position des militaires tchadiens dans la localité de Kaiga Kinji. D'après le porte-parole de l'armée en N'Djamena, le colonel Azem, 8 militaires sont morts et 11 ont été blessés, tandis que 48 terroristes ont été tués. Début octobre, Boko Haram a visé au mortier un camp militaire à Litri, près de la frontière avec le Nigeria, tuant un militaire tchadien. Fin septembre, 6 personnes, dont 2 militaires, ont été tuées dans une attaque sur les rives tchadiennes du lac Tchad. L'armée avait annoncé avoir tué 17 djihadistes. Depuis plusieurs semaines, l'armée nigériane a aussi intensifié ses opérations dans la région du lac Tchad avec des frappes aériennes contre le groupe djihadiste. Boko Haram opère dans tous les pays au bord du lac Tchad en commettant des attentats meurtriers, des attaques contre les forces de l'ordre et procède à des enlèvements. L'insurrection islamiste et sa répression a fait au moins 27 000 morts et provoqué une grave crise humanitaire avec près de 2 millions de déplacés.
Au Cameroun, Maurice Kamto, qui a revendiqué lundi la victoire à la présidentielle, revient à la charge. Ce mercredi, son porte-parole a annoncé l'ouverture d'une enquête publique au sujet de faux observateurs électoraux qui ont été présentés comme des observateurs de Transparency International. Notre correspondant à Yaoundé, Jules-Emmanuel Tap, nous en dit plus.
Lors d'une conférence de presse, le porte-parole de Maurice Kamto, Olivier Bissouk Nissak, a demandé l'ouverture urgente d'une enquête pour identifier les faux mandataires de Transparency International. Lundi, 6 personnes d'origine occidentale avaient été présentées à la CRTV, la télévision d'État, comme étant des observateurs envoyés par l'Organisation de lutte contre la corruption. Transparency a démenti mardi avoir envoyé les observateurs au Cameroun. Par ailleurs, le porte-parole de Maurice Kamto a indiqué que des soulèvements et actes de violence sont en préparation pour être mis au compte de leur champion. Il a aussi rassuré que la sécurité de Maurice Kamto n'est pas pour le moment menacée. Yaoundé, Emmanuel Jeloutap, VOA Afrique.
En RDC, persistance du désaccord autour de la machine à voter lors de la deuxième réunion ce mercredi à Kinshasa entre la CENI et les candidats à la présidentielle du 23 décembre. Thierry Kabundi de Top Congo FM, notre station partenaire, nous en dit plus.
Ceux qui ne veulent pas expérimenter la machine à voter peuvent quitter la salle, aurait déclaré en pleine réunion Corneille Nanga, le président de la CENI, selon le candidat président Théodore Ngoï. Pendant près de 3 heures, les 6 candidats présents sur les 21, en plus des délégués de quelques absents, ont essentiellement discuté de la méthodologie du travail adopté dans ce cadre de concertation. Au débat technique préconisé par la CENI, la légalité de la machine à voter et le fichier électoral ont été soutenus comme point de départ par la majorité des candidats, surtout ceux opposés à l'usage de la machine à voter, cet outil informatique dont la CENI conditionne l'usage pour la tenue des élections le 23 décembre prochain. Le désaccord persistant, Vital Kamerhe, Martin Fayulu, Seth Kikuni et Maître Jacquemain Chabani, le délégué de Félix Tshisekedi, ont quitté la salle et annoncé qu'ils préparent une déclaration commune sur l'échec de ce cadre de concertation. La collaboration est bonne, nous avançons et avons demandé à tout le monde de se faire accompagner des expert a pour sa part déclaré le vice-président de la CENI, Norbert Katintima, qui a rejeté les propos du candidat Théodore Ngoï. À 2 mois et demi des élections, les violences sont très loin de s'accorder autour de l'usage ou non de la machine à voter le 23 décembre prochain. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au moins 51 personnes ont été tuées ce matin dans un accident d'autocar dans l'ouest du Kenya qui transportait 52 passagers. Salwa Jafari nous en dit plus.
Sur le site de l'accident, un bus rouge qui ne ressemble plus à rien. Les bagages des passagers sont éparpillés et le toit gît à plusieurs mètres du véhicule. James Nouguera, commandant de la police, inspecte les lieux.
Selon le premier rapport que nous avons reçu, le conducteur a perdu le contrôle du véhicule et a dévalé la falaise. Nous avons perdu plusieurs vies. Nous avons pu compter 50 personnes tuées, 31 hommes, 12 femmes et 7 enfants.
Le président Uhuru Kenyatta a déclaré que les autorités enquêtaient sur ce qu'il a appelé un incident catastrophique. Les statistiques officielles font état d'environ 3000 morts par an sur les routes du Kenya. Mais selon l'Organisation mondiale de la santé, ce nombre serait supérieur à 12 000.
La marine royale marocaine a ouvert le feu sur une embarcation transportant des migrants marocains lors d'une opération d'interception au large de Larache, faisant un blessé, a-t-on appris aujourd'hui. En dépit des tirs de sommation, l'embarcation à moteur qui transportait 58 personnes dissimulées sous une bâche a effectué une manœuvre hostile, ce qui a poussé le bateau garde-côte à tirer sur ordre de son commandant, indique l'armée. Une Marocaine de 17 ans accusant des hommes de son village de viol collectif a maintenu ses accusations ce mercredi devant le juge d'instruction malgré les insultes et menaces de ses détracteurs. 12 suspects âgés de 18 à 28 ans ont été placés en détention préventive fin août pour traite d'êtres humains sur mineurs, viol, torture et usage d'armes causant des blessures et séquelles psychiques et enlèvement et séquestration. L'effondrement d'une banque sud-africaine qui avait accordé un prêt à l'ex-président Jacob Zuma est le résultat du pillage organisé par des dizaines de personnes et sociétés à hauteur de 126 millions de dollars selon un rapport diffusé ce mercredi. La banque VBS Mutual était à court de liquidités en mars avant d'être placée sous tutelle de l'État. La banque est corrompue et pourrie jusqu'à la moelle, estime le rapport intitulé « L'immense casse de la banque » rédigé à la demande de la Banque centrale. Les Mozambicains votaient ce mercredi pour les élections municipales, un scrutin sous haute surveillance après une campagne qui a ravivé les tensions entre le Frelimo et la Renamo. Après avoir glissé son bulletin dans l'urne, le président Philippe Nyusi a exhorté tous les Mozambicains à adhérer au processus électoral.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'œil du puissant ouragan Michael a frappé en milieu de journée la côte nord-ouest de la Floride avec des vents relevés en moyenne à 250 km heure. Des dizaines de milliers d'habitants ont été appelés à évacuer. Nani Talani nous en dit plus.
L'ouragan Michael se dirige à une vitesse de 220 km par heure vers la Floride dans le sud-est des États-Unis. Il est potentiellement catastrophique, ont averti les météorologues américains. Ils ont précisé que l'œil se trouvait à 80 km de Panama City en première ligne. Tallahassee, capitale de la Floride, est devenue une ville fantôme. Le gouverneur républicain de Floride, Rick Scott, s'est dit très inquiet pour les personnes qui ont décidé de ne pas partir. Quelques 375 000 personnes dans plus de 20 comtés de la Floride ont reçu l'ordre ou ont été incitées à évacuer. Michael sera la plus puissante tempête en plus de 100 ans dans certaines régions, ont prévenu les services d'urgence de l'État. « Nous sommes très bien préparés », a assuré hier le président Donald Trump. Il a approuvé mardi l'état d'urgence dans 35 comtés de Floride. Les États voisins d'Alabama et de Géorgie devraient également être affectés. L'État de Caroline du Nord, affecté à la mi-septembre par l'ouragan Florence, a été placé en alerte.
Un agent du renseignement chinois arrêté en Belgique a été extradé vers les États-Unis et inculpé pour espionnage industriel contre des compagnies aéronautiques américaines, a annoncé le département de la justice. Yang Jun Xu a été arrêté le 1er avril et extradé mardi vers les États-Unis où il a été inculpé pour tentative d'espionnage économique selon un communiqué du ministère américain.
et des éléments accréditant la thèse de la disparition forcée ou de l'assassinat d'un journaliste saoudien à Istanbul par des agents de son pays ont été révélés par les médias turcs alors que sa fiancée demande l'aide de Donald Trump. Le président américain a déclaré ce mercredi avoir parlé au plus haut niveau avec les Saoudiens. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nanit Talani.
L'Angola pourrait réduire son déficit budgétaire à 1% d'ici à la fin de l'année, selon José de Lima Massano, gouverneur de la Banque centrale angolaise. Cette performance, qui représente une baisse par rapport aux 7% de déficit budgétaire enregistré à la fin 2017, devrait être stimulée par le plan de stabilisation macroéconomique mis en place par le président João Lourenço. Le fardeau de la dette est de plus en plus important, 64% du PIB en 2017. L'État envisageait néanmoins de recourir aux marchés obligataires afin de financer ses projets de développement dans un contexte de diminution de ses réserves en dollars. La Banque mondiale va investir 594 millions de dollars en faveur de l'éducation en Tanzanie. Ce financement s'ajoute aux 25 projets de l'institution de Bretton Woods dans le pays. Totalisant près de 3,95 milliards de dollars, ces projets sont essentiellement destinés à améliorer le secteur du transport en Tanzanie. Et pour terminer, en Libye, 9% du combustible vendu dans les stations-service est passé par les réseaux de contrebande, selon un rapport de la police italienne qui lutte contre la contrebande d'essence. Depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011, les milices armées volent le pétrole brut et l'exportent en Italie par l'intermédiaire de Malte. Cela constitue un important manque à gagner pour la Libye, car ces 9% d'essence issue de la contrebande auraient pu aider à améliorer les recettes publiques de ce pays.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Nouvelle journée de qualification pour la CAN 2019.
Oui, l'Éthiopie et le Kenya ont fait match nul, 0 but partout à Bahir Dar dans le groupe F. Et dans le groupe K, la victoire de la Zambie à Lusaka, 2 buts à 1 contre la Guinée-Bissau. Une victoire précieuse pour revenir sur les talons du leader Bissau-Guinéen dans ce groupe K.
La double confrontation Sierra Leone-Ghana est annulée.
Les deux matchs prévus demain et dimanche dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 ont été annulés. Annonce de la Confédération africaine de football en cause. Une dispute entre Freetown et la FIFA qui a suspendu la Fédération Sierra Leonaise de football la semaine dernière pour ingérence gouvernementale. Pour l'heure, la CAF n'a pas précisé si ce forfait entraînait la disqualification complète des Lion Stars, ni si le Ghana allait récupérer les 6 points sur tapis vert. On rappelle que dans ces éliminatoires de la CAN 2019, les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés. Cette prochaine CAN doit, en principe, se dérouler au Cameroun du 15 juin au 13 juillet l'année prochaine.
La Libye n'a plus de sélectionneur.
Alors qu'ils sont opposés au Nigeria samedi et mardi dans le cadre de ces éliminatoires de la CAN 2019, les joueurs libyens viennent de perdre leur sélectionneur Adel Amrouche. En plein stage de préparation en Tunisie, le technicien algérien a claqué la porte et démissionné. La raison, plusieurs mois de salaire non versé. Son intérim devrait être assuré par son adjoint Omar Al-Marmi lors de ces deux matchs.
Et demain, la Ligue des Nations reprend ses droits en Europe.
Et notamment la sélection du Portugal qui a été surtout animée par les déboires extrasportifs de Cristiano Ronaldo. Eh bien les Portugais, comme en septembre contre l'Italie, ne pourront compter sur Cristiano Ronaldo, les Portugais qui affrontent la Pologne. Idem avec la Russie, la Zbornaïa sur la lancée de sa belle Coupe du Monde avait réussi de beaux débuts en Ligue des Nations en allant s'imposer 2-1 en Turquie. Mais on parle beaucoup plus là-bas des écarts d'Alexander Kokorin et de Pavel Maev. En tout cas, la Russie accueille à Kaliningrad la Suède. À Haïfa, Israël reçoit l'Écosse, la Serbie en déplacement chez le Monténégro, la Roumanie ira en Lituanie, les îles Féroé accueillent l'Azerbaïdjan et le Kosovo face à Malte.
Merci beaucoup Nicolas pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. Au moins 180 000 ressortissants de la République démocratique du Congo en situation irrégulière en Angola sont rentrés dans leur pays depuis le début d'une opération d'expulsion lancée par Luanda contre les clandestins. Plusieurs d'entre eux ont été tués en marge de cette opération. Sur cette question, Eddy Sango a joint à Chikapa, dans la province du Kasaï, le coordonnateur de la Ligue nationale paysanne des droits de l'homme, Albert Fouamba.
Je suis juste à l'entrée de la ville de Chikapa. Je vois les chasseurs de l'Angola qui viennent. Ils font presque 150 km à pied, des femmes, des enfants, des hommes, dans les conditions tout à fait des personnes fatiguées, humiliées.
Qu'est-ce qu'ils disent des opérations qui sont menées là-bas pour les évacuer, pour les chasser?
À la sortie là, ils avaient des tracasseries policières. Des fois, on pouvait fouiller dans leurs biens. Mais vu leur nombre, cette tracasserie-là a diminué puisqu'il n'y a pas moyen de les contrôler. Malgré ça, les services de l'État essaient un peu de voir par quels moyens ils peuvent être dirigés pour que chacun récupère sa famille.
Mais on parle de morts et même parmi eux des Congolais.
Ils nous parlent des morts de la ville de Lukapa, de certaines personnes qui ont été tuées, forcées pour sortir et tuées. Et là, nous n'avons pas tellement le bilan.
Le commissaire de la police angolais parle d'au moins 180 000 Congolais qui auraient été chassés. Est-ce qu'en arrivant au Congo, ces personnes sont-elles prises en charge par les autorités?
Jusque-là, il n'y a aucune autorité en place ou une organisation non gouvernementale qui a pris en charge ceux qui sont en train d'entrer. Des fois, certaines viennent sans quelque chose entre leurs mains. Vous savez, il y a un délai qui les a été donné de sortir librement avec leurs biens. Et vu que ce délai est en train d'expirer, alors certaines sont chassées pour chasser, laissant leurs biens de l'autre côté de l'Angola.
Certains d'entre eux viennent d'autres coins de la RDC, mais quand ils sont rapatriés par ou chassés par les Kasaï, comment vont-ils rejoindre leur famille?
Semble être un peu une équation à ce niveau-là, puisque vous savez, ici au Congo, les moyens de transport sont compliqués, il n'y a pas de route pour la circulation facile, alors c'est tout à fait difficile. Si quelqu'un de Kavemba, du côté des Bandundu, se retrouver sortir du Kasaï, celui du Kasaï se retrouve sortir du côté des Bandundu.
Il y a chaque année des rencontres comme ça après qu'on ait expulsé des Congolais, mais la situation ne change pas.
Ça vient chaque année, chaque moment. À l'heure qu'il est, il semble que tous les expatriés qui étaient en Angola, que ce soit les Blancs, les Noirs, les Sénégalais, les Ivoiriens, sont chassés de cette façon-là, tous ensemble.
C'était Albert Fouamba, coordonnateur de la Ligue nationale paysanne des droits de l'homme à Chikapa, en République démocratique du Congo.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi, plein feu sur l'élection présidentielle de dimanche dernier au Cameroun. Le pays est dans l'attente des résultats, mais l'un des candidats de l'opposition, Maurice Kamto, a d'ores et déjà revendiqué la victoire face au président sortant Paul Biya. Cette proclamation jugée prématurée pourrait-elle donner lieu à une crise post-électorale dans ce pays déjà confronté aux troubles dans les régions anglophones? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
On revient donc sur l'élection présidentielle au Cameroun, où la compilation des votes a débuté environ 48 heures après le scrutin de dimanche. À l'issue de cette étape, la Commission générale de recensement des votes va transmettre les résultats à la Cour constitutionnelle pour publication. En attendant, les Camerounais sont partagés sur la victoire revendiquée lundi par l'opposant Maurice Kamto. Notre envoyé spécial Bagassi Koura a tendu le micro à des passants à Yaoundé.
La sortie lundi de Maurice Kamto, qui s'est déclaré vainqueur de la présidentielle, est toujours largement commentée dans les rues de la capitale. Les Camerounais sont divisés sur la question C'est une immaturité politique, estime le septuagénaire Frédéric Tchalanga.
Majesté Tchalanga, moi j'ai fait politique étant enfant. Jusqu'à maintenant, c'est pas comme ça que ça se passe.
Pour Tchalanga, Maurice Kamto est un amateur qui est sous l'effet de la folie des grandeurs.
Il n'a pas appris politique, c'est l'argent qui lui rend fou pour faire tout ce qu'il fait là.
Certains prêtent aussi des intentions au candidat du MRC, à l'instar de ce fonctionnaire qui a requis l'anonymat.
Il n'y aura pas ce qu'il veut faire, l'insurrection, il n'y aura pas ça au Cameroun. Nous les jeunes fonctionnaires, comme il n'y aura pas cela au Cameroun.
Mais il y a aussi ceux qui comprennent les propos tenus lundi par Maurice Kamto, un spécialiste du droit qui inspire confiance selon eux.
Le professeur Maurice Kamto, c'est un grand homme et je pense que quand il ne parle pas au hasard, parce que c'est lui-même qui a écrit le code électoral, donc je pense que c'est les mots qu'il a prononcés sont des mots qu'il maîtrise lui-même très bien.
Moi, je pense qu'au-delà des vacances des autres adversaires politiques, il sait bien de quoi il est question et je pense que ses déclarations sont tellement nuancées et métaphoriques et il sait ce qu'il fait.
Atangana Ona Dominique, militant de première heure du Parti nationaliste l'Union des populations du Cameroun, estime que la polémique actuelle reflète en réalité l'échec des leaders de l'opposition.
Les opposants, on leur a demandé de faire une coalition pour trouver un candidat charismatique qui peut se présenter contre le président du parti au pouvoir, mais ils n'ont pas voulu. Mais maintenant, s'auto-proclamer comme candidat. Comme candidat élu avant la déclaration des résultats. Ce n'est pas une bonne chose, c'est une façon d'amener le Cameroun dans le chaos.
En attendant la publication officielle des résultats de la présidentielle par la Cour constitutionnelle au plus tard le 22 octobre, la plupart des Camerounais veulent que la course au pouvoir n'aboutisse pas à une querelle politique prolongée. Bagassi Koura, Yaoundé pour VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2. Au Burkina Faso, la société civile se solidarise pour soutenir les forces de défense et de sécurité en proie à des vagues d'attaques terroristes. Une initiative citoyenne de soutien au FDS a organisé ce matin un cross populaire, prélude à une série d'activités à venir. Les détails avec notre correspondant à Ouagadougou, Issa Napon.
Suite aux multiples attaques terroristes qui frappent et endeuillent le Burkina Faso, la frange jeune de la société civile ne veut pas être en reste. Des initiatives qui naissent ça et là pour galvaniser et remonter le moral des troupes durement touchées ces derniers mois, explique Issouf Zungrana, coordonnateur de l'initiative citoyenne de soutien aux forces de défense et de sécurité.
L'objectif de cette initiative citoyenne-là, c'est de mener des actions citoyennes en vue de soutenir, de motiver et de galvaniser les forces de défense et de sécurité qui, nuit et jour, défendre notre pays, nuit et jour, contribuer à la protection de notre nation. Et au-delà de ça, passer des messages à l'endroit de la population et tous les acteurs du système sécuritaire et de défense de notre pays pour que, ensemble, main dans la main, on puisse œuvrer à lutter contre ces attaques.
Battre le pavé pour remonter le moral des troupes est l'élément moteur qui explique leur présence, témoignent quelques manifestants.
Soutenir la FDS, c'est en quelque sorte une manière de faire progresser le pays. Donc c'est pourquoi nous devons les soutenir de telle sorte qu'ils avancent.
On est là ce soir juste pour soutenir les forces de sécurité qui font un bon boulot dans le pays. Voilà. Juste pour leur dire qu'on est derrière eux et on les soutient.
Les citoyens sont ainsi invités à prendre part aux diverses activités lancées à travers la procession, détaille le coordinateur Issouf Zungrana.
Il y a déjà la procession de ce jour. Nous avons décidé de lancer ce message fort-là pour que ces forces-là sachent que le peuple du Burkina Faso se trouve derrière elles. La semaine qui vient, on va organiser des activités sportives. On a dénommé ça les 8 kills civils FDS. Il y a également des activités de don de sang que nous avons demandé. Sur le combat, vous savez que souvent il y a des besoins en don de sang. Donc avec la direction générale du Centre national des transfusions, sont sanguines. Nous sommes en train de déployer un programme. Il y a des activités de plaidoyer que nous allons mener. Tous les acteurs qui sont importants dans le dispositif seront rencontrés. Et pour terminer, nous allons lancer une collecte de fonds pour le fonds de solidarité des forces de défense et de sécurité.
Venez aussi leur témoigner de leur soutien. La coordination d'une association ivoirienne, Côte d'Ivoire Solidarité, était particulièrement active sur le terrain. Leur présence était nécessaire, explique leur représentant Aruna Traoré.
Vous savez qu'aujourd'hui, au Burkina Faso, il y a 3 000 Ivoiriens. Et la Côte d'Ivoire se trouve à la frontière du Burkina Faso. C'est des façons lâches qu'ils attaquent les FDS. Donc, on ne peut pas savoir par où. Mais nous, en tout cas, de notre côté, en tant qu'Ivoiriens, nous allons faire de sorte que ça ne passe pas par nous. Voilà. Donc, c'est aussi notre manière de soutenir les FDS.
Depuis le début de l'année, les attaques terroristes ont progressé du Sahel au nord pour s'étendre au centre et en fait à l'est du pays et faire une quarantaine de morts et de nombreux blessés au sein des FDS et des civils. Des forces de sécurité, sans doute ragaillardies par ses soutiens tous azimuts. Issa Napon Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Le Parlement tunisien a voté une loi criminalisant les propos racistes, l'incitation à la haine et les discriminations. Le pays comprend une minorité noire estimée entre 12 et 15% de la population et reçoit beaucoup d'étudiants venus d'Afrique subsaharienne. Pour analyse, Abdourahmane Dia a joint à Tunis le journaliste Mourad Selami.
Dans cette loi, les objectifs, dans la mesure que dans la société, il y a de la discrimination. C'est vrai que ce n'est pas une discrimination très apparente, mais lorsqu'on constate, par exemple, que l'équipe gouvernementale ne comprend pas des personnes de peau noire, par exemple, lorsqu'on constate que les femmes dans le gouvernement ne constituent que 3 ou 4 sur 40, on comprend parfaitement que la loi est censée faire la locomotive dans une société pour pousser à l'avant vers la fin de la discrimination.
Et justement, c'est une loi qui était attendue de longue date. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a favorisé son adoption en 2018?
Je ne pense pas qu'il y a vraiment une conjoncture spéciale qui a poussé à ce que cette loi soit votée aujourd'hui. Non, c'est plutôt le travail en lui-même de l'Assemblée des représentants du peuple est très lent durant cette législature. Il y a presque 50 ou 60 projets de loi qui attendent encore de dépasser devant l'Assemblée.
En Tunisie, les minorités, notamment les Noirs, étaient victimes de discrimination. Quelle est l'ampleur de ce phénomène?
Pour être honnête, oui, elles sont victimes de discrimination si l'on voit leur ascension sociale, leur ascension professionnelle. Par exemple, en Tunisie, le mariage mixte blanc-noir est un phénomène vraiment rare. C'est-à-dire que sur l'ensemble des couples tunisiens, il n'y a même pas 2% de couples mixtes qui n'est pas en Tunisie. Le gouverneur sur les 26 gouvernorats tunisiens de gouverneurs noirs, et pourtant la population noire en Tunisie et de l'ordre de 10 ou 11%.
Beaucoup d'étudiants venant d'Afrique subsaharienne se plaignent sur les réseaux sociaux de la manière dont ils sont traités en Tunisie. Est-ce que c'est une réalité et qu'est-ce que le gouvernement tunisien fait?
Cela ne vient pas du fait qu'il soit noir. Cela vient du fait qu'il soit étranger. Mais le phénomène est circonscrit. Le phénomène n'est pas très large.
C'était le journaliste tunisien Mourad Selami.
Nos infos sur voaafrique.com.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Cheikh Thierrot. À la présentation, Nathalie Barge. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voaafrique.com pour l'actualité en continu. Très bonne soirée à toutes et à tous.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Bienvenue à bord.